Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés.
Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs.
Et nous avons la joie de recevoir notre ami Jean-François Chemin. Bonjour Jean-François. Je crois que je ne vous entends pas.
Ah, ça y est.
Voilà.
Ça y est, on m'entend ?
Voilà, oui. Tout, très bien.
Donc je vous disais bonjour.
Oui, tout à fait. Et vous êtes notre invité aujourd'hui parce que vous avez publié, il y a un an, ou un tout petit peu plus d'un an, un ouvrage qui a été un véritable succès d'édition.
Tout à fait. Et je l'ai publié grâce à votre excellente maison d'édition, Via Romana. Voilà, donc il est sorti effectivement au mois de juin 2025.
Et on peut dire qu'il est brûlant d'actualité.
Je dirais qu'il est à la fois brûlant d'actualité et en même temps intemporel, puisque j'essaye de faire un petit peu une radiographie de l'esprit de gauche, et je remonte très loin. Hein. Donc effectivement, il est à la fois totalement actuel, et il permet de comprendre énormément de phénomènes, de propos, d'attitudes qu'on peut voir dans le paysage politique français actuellement. Mais on s'aperçoit effectivement que cet esprit remonte à très très loin, puisque je fais remonter les origines de l'esprit de gauche à l'époque de Jésus-Christ, finalement.
Oui, effectivement, puisque votre livre s'ouvre par une longue citation de Saint-Luc.
Oui, alors, franchement, je ne sais plus par quelle citation.
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, etc. etc.
Voilà, effectivement. Alors oui, mais merci de me rafraîchir la mémoire. Mais effectivement, je dirais que le propre de cette de la gauche et de la République d'ailleurs, parce que je pense que la gauche et la République c'est tout un, puisque la République est finalement l'instrument de la gauche pour mettre en œuvre depuis qu'elle existe son programme. Et ce programme, c'est ni plus ni moins que la mise en œuvre politique ici et maintenant, de la morale évangélique.
Voilà, mais vous évoquez plutôt la République française, pas la République romaine, sûr. Évidemment.
Non, la République
puisque
française...
Puisque d'ailleurs, vous faites l'éloge de la République romaine dans votre livre.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Vous êtes bien placé pour savoir que je travaille aujourd'hui un livre sur la chute de la République romaine. Je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de symptômes communs entre cette... période qui va en gros de 146 avant Jésus-Christ à l'assassinat de Jules César ou l'avènement d'Octave, 44 avant Jésus-Christ ou 27 avant Jésus-Christ, à cette époque lointaine avec la nôtre. Voilà, mais ça, ce sera l'occasion d'une prochaine émission quand le livre sera paru.
Alors, nous parlons effectivement de la Révolution française, et donc de l'avènement de la République. Votre livre commence par une description de ce que furent réellement les révolutionnaires, ceux qui ont véritablement propagé les idées des Lumières et tout ce qui s'ensuit. Véronique va nous faire une petite lecture qui nous aidera à définir un petit peu votre pensée.
Tous ces hommes portent culottes à la française et bas de soie, sauf un, le père Gérard. Seul laboureur présent dans cette assemblée d'avocats, de juges et, bien sûr, de curés, outre quelques nobles ralliés. Tous des clercs, donc, ou presque, des gens qui causent. La Révolution n'a pas été faite, comme on veut le faire croire, par le tiers-État, pour le tiers-État, entendu au sens de ceux qui appartiennent à la troisième fonction, celle qui produit, mais par des clercs, et même très largement des clercs stricto sensu, c'est-à-dire des religieux. On pense d'abord aux trois que Balzac surnomme le brelan de prêtre. L'abbé Siès, auteur du libelle « Qu'est-ce que le tiers-état ?» Monseigneur de Talleyrand ensuite, évêque d'Autun, qui proposa notamment la nationalisation des biens du clergé. Et l'oratorien Joseph Fouché, enfin, qui dirigera à Lyon une terreur impitoyable. Mais ces trois-là sont entourés d'une armée de prêtres révolutionnaires qu'on ne saurait tous citer. Jacques Roux, l'apôtre des enragés, le prieur chartreux, Don Gerle, persuadé du sens mystique de la Révolution, l'abbé Claude Fauchet, qui marcha le premier sur la Bastille, le bénédictin Don Poirier, qui présida à la profanation des tombeaux royaux de Saint-Denis, et tant d'autres. Sans oublier les 50% de prêtres qui acceptèrent de prêter, malgré l'opposition du pape Pie VI, les serments politiques successifs qui ont été exigés d'eux. Le caractère religieux de la Révolution est encore plus manifeste si, comme nous le verrons, l'on considère que la religion constitue le cœur de son œuvre, avec l'obsession de renforcer le pouvoir de l'État par l'étatisation de l'Église, au terme d'un long processus entamé depuis plusieurs siècles. On peut donc constater à cette première étape du raisonnement que l'homme de gauche est, originellement, un clerc. Un clerc au sens propre, c'est-à-dire un religieux, mais aussi au sens élargi d'homme doté à la fois d'un statut privilégié et d'un magistère intellectuel et moral, avocat, juge, journaliste, universitaire, etc.
Alors, Jean-François Chemin, est-ce à dire que seuls les intellectuels sont de gauche, enfin...
Je dirais que, essentiellement, les intellectuels sont de gauche. Un intellectuel de gauche bien connu aujourd'hui, monsieur de La Gannerie, dit que intellectuel de droite, c'est un oxymore. Donc, lorsqu'on est un intellectuel, on est supposé être de gauche. Et lorsque l'on est de gauche, on est supposé être un intellectuel. Voilà. Alors, faut pas confondre effectivement intellectuel et intelligence. Hein. Mais je pense que pour beaucoup de gens, le fait de se dire de gauche crée une sorte de présomption d'intelligence, mais surtout d'appartenance à la caste des intellectuels. C'est pour ça qu'on peut effectivement avoir des gens qui peuvent être des milliardaires. On croit souvent que être de gauche, c'est réservé aux pauvres, parce que la gauche aurait vocation à défendre les pauvres. Mais pas du tout. La gauche n'a que faire des pauvres. D'ailleurs, ils n'ont constitué dans sa grande œuvre de libération qu'une étape. Hein. La gauche a d'abord prétendu vouloir libérer le tiers-État des privilèges, puis ensuite elle a voulu libérer... En fait, elle a libéré la bourgeoisie. Alors ensuite, dans un deuxième temps, elle a voulu libérer les prolétaires de la bourgeoisie, mais maintenant on en est à vouloir libérer les femmes des hommes, les homosexuels des hétérosexuels, etc., etc. Donc le pauvre français aujourd'hui sert plutôt à gauche de repoussoir parce qu'il est réputé... chauvin parce qu'il est réputé misogyne parce qu'il est réputé homophobe, etc. Donc vous avez aujourd'hui, et c'est très chic, tout un tas de gens très riches qui se définissent comme de gauche parce que ça rajoute effectivement à leur statut social un statut intellectuel et moral, ce magistère dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, justement, la citation de Véronique nous recentre sur l'objet de votre livre, à savoir que la gauche est une caricature. C'est un avec son clergé, ses dogmes, sa morale, on pourrait même dire ses sacrements. Enfin bref, vous considérez que cet esprit de gauche est une religion.
Voilà, je ne sais pas si j'ai inventé ce terme caricature, il devait certainement exister quelque part, mais il me semble intéressant, d'abord parce que sa racine, effectivement, c'est le clerc. Et l'homme de gauche est un clerc. Alors, stricto sensu, vous l'avez dit, c'est un religieux, mais au sens large, c'est un intellectuel doté d'un magistère intellectuel et moral, qui le place en surplomb vis-à-vis de la société. Il est apte à donner des leçons. Et puis, j'aime bien effectivement le rapport sonore qu'il peut y avoir effectivement avec dictature. Hein, voilà. Donc, c'est une caricature, c'est une sorte de dictature des prêtres. Voilà.
Vous parlez notamment de l'Inquisition. De
effectivement,
gauche.
Donc du fait de sa longue histoire d'essence religieuse, qui ne commence pas avec 1789, même si on pourra revenir sur cette année 1789, l'homme de gauche ou la femme de gauche est l'héritier de tout un tas de reproches hein, qu'on peut faire, enfin, tout un tas d'attitudes dont on fait aujourd'hui reproche à l'Église et dont il fait reproche, lui, l'homme de gauche, à l'Église, et notamment l'Inquisition. Hein. C'est-à-dire que dans notre histoire catholique, il y a le fait que l'Église détient la vérité, hein, il n'y a qu'une vérité, c'est l'Église qui la détient, c'est l'Église qui la définit, c'est l'Église qui la défend. Cette vérité, d'ailleurs, est garante d'une religion d'amour, hein, donc l'Église est la garante de l'amour et de la vérité, et toute personne qui pense en dehors de ce qu'il est légitime de croire est dans l'erreur, dans le mensonge, et donc dans la haine. Hein. C'est très intéressant de voir que dès que vous ne pensez pas de gauche, vous êtes forcément quelqu'un de haineux. Et cette présomption, cette haine se présume. Voilà. Et donc, contre cette erreur, ce mensonge qui conduit à la haine, eh bien, il n'y a pas de quartier possible. Et donc, la gauche reprend les techniques de l'Inquisition, c'est-à-dire la dénonciation de personnes comme étant des hérétiques, avec des idées hérétiques, mais on ne va pas discuter de ces idées. On ne va pas essayer de démontrer que vous avez tort, on va simplement essayer de vous invisibiliser, comme auparavant on vous brûlait, hein. On ne discute pas avec un hérétique, on le met hors d'état de nuire, puisque son expression même met en péril hein, la cohésion sociale et la paix sociale, voilà. Et également l'autorité de ceux qui la détiennent, cette autorité. Donc, la gauche fonctionne effectivement totalement selon le mode inquisitoire dont elle fait reproche à l'Église.
Donc, au fond, vous considérez que l'esprit de gauche, c'est une sorte d'hérésie chrétienne, enfin.
C'est plus qu'une hérésie chrétienne.
Une hérésie dérivée du christianisme.
C'est une synthèse de tout un tas d'hérésies ou de courants qui ont été balayés par l'Église au cours des siècles. Ça commence par le pharisaïsme.
Oui, pharisien, pélagien, puritain, janséniste, manichéen. L'esprit de gauche est un conservatoire des théories rejetées et combattues par l'Église catholique dans la définition progressive de son orthodoxie.
Absolument. Et je pense que toutes ces erreurs que vous, enfin, des erreurs pour l'Église que vous citez ont un point commun. Et que ce point commun, c'est de faire passer la frontière entre le bien et le mal, entre moi et les autres. Nous savons, nous, catholiques, depuis saint Augustin, que nous sommes pécheurs par nature, parce que nous sommes marqués par le péché originel. Voilà. Donc la frontière entre le bien et le mal, je le sais, elle passe au milieu de moi. Et que pour faire avancer les choses dans le sens du bien, je dois combattre le péché qui est en moi. Mais l'homme de gauche ne fonctionne pas du tout comme ça. Il est effectivement comme les pharisiens, comme les pélagiens et toutes les hérésies que vous avez citées, les manichéens. Bon, voilà. L'homme de gauche considère que la frontière entre le bien et le mal passe entre lui et les autres, et que donc pour faire avancer la cause du bien sur Terre, eh bien, il faut lutter contre les autres qui ne pensent pas comme lui, ou qui ne font pas comme lui, et qui incarnent donc le mal. Hein, voilà. Et donc l'homme de gauche est en permanence en train de dénoncer le mal chez les autres et de dénoncer les autres comme étant l'incarnation du mal. Hein, d'où effectivement tout un tas d'allusions au diable, le Rassemblement National se dédiabolisera, Jean-Marie Le Pen, je ne sais plus qui avait d'avoir dîné avec le diable, enfin, etc. Mais voilà, donc nous sommes, pour eux, nous sommes le diable. Et donc, le bien ne sera possible sur Terre qu'après nous avoir éliminés.
Oui, il y a une démarche, en plus de ça, tout à fait totalitaire. Vous décrivez bien ce qui s'est passé, notamment à Genève, par exemple. Avec
effectivement.
Avec ce que vous définissez comme une forme d'augustinisme politique.
Tout à fait. Il y a eu dans le christianisme des épisodes d'augustinisme politique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'augustinisme politique? C'est une mauvaise compréhension de la théorie des deux cités de saint Augustin. Que dit saint Augustin dans la Cité de Dieu, pour essayer d'expliquer et de justifier la chute de l'Empire romain? Il dit aux Romains de son époque, nous sommes à la fois des habitants de la cité des hommes, donc l'Empire romain, mais également des habitants de la Cité de Dieu. Et donc il dit, ne nous désolons pas de l'effondrement de notre cité des hommes, parce que toutes les cités des hommes sont mortelles. Réjouissons-nous de continuer à participer à la construction de la cité de Dieu, qui elle seule est immortelle. Voilà, donc par là même, saint Augustin légitime la coexistence de deux sphères distinctes, la sphère politique et la sphère religieuse, spirituelle. Alors, il ne donne pas de hiérarchie entre les deux,
non.
Mais il dit simplement que le propre de la cité des hommes, lorsque le souverain est chrétien, eh bien, c'est de travailler au salut de ses sujets. Le souverain chrétien doit contribuer au salut de ses sujets. Et donc, ce faisant, il a l'air quand même,
il y a un
avec
glissement,
nuance,
il y a un glissement.
Voilà, il y a un glissement
Oui.
de placer l'Église au-dessus de l'État et donc le religieux au-dessus du politique, en donnant finalement mission essentielle aux politiques de faire une application obligatoire hein, de la morale évangélique.
Il n'y a finalement pas de distinction entre le temporel et le spirituel, et ça pose un énorme problème.
Alors on retrouve ça chez Calvin à Genève, vous
Oui.
l'avez dit, mais on retrouve ça également dans la Florence de Savonarole.
Oui.
Hein. 1494-1498, Savonarole institue un État théologique, un petit peu comme le régime des mollahs en Iran, hein, où c'est lui, Savonarole, qui tient le pouvoir et qui oblige la population de Florence eh bien, à vivre selon la stricte morale évangélique, avec une police des mœurs qui vient faire, comme on dit aujourd'hui, des signalements, hein, des signalements, puisque je pense que nous vivons aujourd'hui dans une forme d'augustinisme politique, mais sans Dieu et sans l'Église, mais c'est l'État qui a pris la place de Dieu et de l'Église, mais on a effectivement une police des mœurs qui vient faire des signalements en disant, voilà, dans les bistrots de Caen, en marge de la réunion du canon français, eh bien, il y a des gens qui ont tenu tel ou tel type de propos et ont fait remonter ça, effectivement. C'est de l'augustinisme politique.
Effectivement, c'est ce qu'on peut appeler l'empire du bien, quoi.
Ça, c'est effectivement, c'est l'empire du bien magnifiquement décrit de manière prophétique par Philippe Muret dès 1991. Je crois qu'il y a une phrase qui définit bien cet empire du bien. C'est la seule question importante aujourd'hui, est de savoir s'il est encore possible de ne pas tout interdire absolument. Hein, tout interdire absolument au nom du bien. Voilà. Donc,
les inexpiables guerres saintes, écrivez-vous, entrent aussi dans le génome de la gauche. Et
effectivement. Alors effectivement, il y a quelque chose qu'on ne voit pas assez quand on parle des colonnes infernales. Les colonnes infernales en 1793-1794, donc on est au XVIIIe siècle, qui ont donc fait ce qu'on sait en Vendée, se référaient explicitement aux mêmes colonnes infernales du maréchal de Villars quelques décennies plus tôt, dans le même siècle, alors cette fois-ci plutôt au début, au cours de la guerre donc des Camisards hein, dans les Cévennes. Vous savez que Louis XIV a abrogé l'édit de Nantes, en 1785 par l'édit de Fontainebleau. Donc des centaines de milliers de protestants ont dû fuir la France, mais il en restait de manière clandestine, et notamment dans les Cévennes. Et donc Louis XIV a décidé d'éradiquer l'hérésie protestante par... donc des colonnes infernales dont les révolutionnaires quelques décennies plus tard se sont inspirés. Mais effectivement, la gauche, depuis qu'elle existe, est l'héritière du « tuer les tous, du reconnaître à les siens hein. ». J'ai eu l'occasion récemment, je crois que je le cite dans mon livre, de lire la republication des mémoires d'un tchéquiste, un révolutionnaire russe, qui, dans les années 1920, contribuait à l'exécution par centaines de milliers hein, d'opposants de tout type, d'opposants ou des gens qui étaient réputés ne pas appartenir au camp du bien. Hein, donc on les mettait tout nus dans une cave, on les tuait d'une balle dans la tête, et ça défilait, ça défilait, ça défilait. Et le préfacier de ce livre, qui est glaçant hein, donc à l'époque, remercie et félicite l'auteur de ne pas avoir manifesté de compassion qui, d'après lui, est un sentiment petit bourgeois. Hein. Mais on voit bien effectivement à quoi remontent ces grands massacres dont la gauche est coutumière quand elle arrive au pouvoir. sous la Révolution française, en Russie, en Chine, au Cambodge, etc. Hein, ce sont des massacres opérés en toute bonne conscience, et encore aujourd'hui. Donc la gauche se contrefiche des massacres qui ont pu être commis au nom de ses idéaux au cours des siècles, quand elle ne les minimise pas, quand elle ne les justifie pas, hein, parce que elle est l'héritière de ce grand courant, de cette grande habitude, hélas, des guerres de religion, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, et comme le disait Saint Bernard dans son éloge de la nouvelle chevalerie, hein, expliquant aux chevaliers qui partaient en croisade, ce n'est pas un homicide que vous commettrez, c'est un malicide. Hein, effectivement, la gauche considère que tuer un opposant, c'est un malicide. On ne tue pas un homme, on tue le mal. Et on en a, hélas, un terrible exemple avec le meurtre du jeune Quentin à Lyon, hein, dont on vient aujourd'hui vous expliquer que bah, finalement, quelque part, c'est lui le coupable. Hein, on n'a pas tué Quentin, on a tué le mal. Voilà.
Et d'ailleurs, vous citez un auteur que j'apprécie particulièrement pour son style et pour certaines de ses idées, c'est Anatole France, qui dit que les dieux ont soif.
Alors effectivement, Anatole France, bien que homme de gauche, a écrit, à mon avis, le meilleur livre qui puisse être sur la Révolution française à travers Les dieux ont soif, qui est donc l'histoire d'un...
pour laquelle les il dieux ont soif de sang.
Voilà, oui. Il s'est énormément renseigné dans les archives révolutionnaires. Et donc, c'est l'histoire d'un peintre raté, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, puisque on sait que les révolutions sont très souvent le fait d'artistes ratés. Hein. On peut évidemment penser à Hitler, peintre raté, mais il y en a eu bien d'autres. Hein. Ce que quelqu'un appelle une bohème littéraire ou une bohème artistique. La révolution est faite par des peintres ratés. Alors donc, dans Les dieux ont soif, un garçon qui s'appelle Gamelin, d'ailleurs, c'est amusant, ça a été écrit en 1912, donc on ne connaissait pas encore le général Gamelin, mais donc ce garçon qui s'appelle Gamelin, peintre raté, se retrouve juge au tribunal révolutionnaire, et bah, clairement, il se prend désormais pour Dieu le Père, hein, chargé effectivement de lutter.
C'est une incarnation de Fouquier-Tinville.
C'est une incarnation de Fouquier-Tinville, mais il dit bien qu'il faudra encore beaucoup, beaucoup de sang pour qu'enfin le mal soit éliminé sur Terre et qu'enfin il ne reste plus que les gens bien, les gens de bien. Quand on voit quand même hein, aujourd'hui un grand maître du Grand Orient de France déclarer la bouche en cœur que le rôle du Grand Orient, c'est de changer l'homme pour changer la société. Mais comment voulez-vous changer l'homme qui, comme on le sait, est pécheur, sans utiliser les moyens les plus radicaux? On commence par l'éduquer, mais on voit que ça marche pas, hein, qu'on fait le bilan de l'éducation nationale. Alors ensuite, on le rééduque, mais ça marche pas non plus. Alors ensuite, on le punit. Et ça marche pas non plus. Alors finalement, on l'élimine à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle. Hein. On ne peut pas, pardon, vous voulez changer l'homme et changer pour changer la société. Quand vous constatez que la société ne change pas comme on le voudrait, assez bien, assez vite, il faut éliminer à grande échelle les gens qui sont les auteurs du mal. La gauche, mais on le voit bien avec Rousseau, hein, et c'est toute l'essence du pélagianisme, hein, considère que l'homme est naturellement bon. Oui. Donc on imagine un grand troupeau de moutons blancs qui font baie, et qu'ils, s'ils étaient bien conduits, donneraient une société toute blanche, au sens moral. On constate que la société est imparfaite, que la société est grise. Au lieu de considérer que tous les moutons sont gris, on va considérer qu'au milieu des blancs moutons se cachent des loups tout noirs. Hein, et donc le troupeau ne redeviendra un troupeau de blancs moutons que tant qu'on aura éliminé, hein, identifié, démasqué, éliminé tous les gens, les loups qui se cachent dans le milieu de troupeau. Sauf qu'il y a du travail, parce que jamais, effectivement, la société ne sera parfaitement, moralement parfaite comme on le voudrait.
Elle peut s'améliorer, on peut dire, grâce à la grâce de Dieu. Mais
Elle
en
peut
tout cas.
s'améliorer effectivement par la grâce de Dieu, quand chacun aura pris conscience de son péché et aura lutté contre lui. Elle peut aussi peut-être s'améliorer marginalement par l'effet de l'éducation, etc. Effectivement, quand on voit les mœurs jadis
Par
et qu'on voit celles d'aujourd'hui,
la
voilà,
civilisation.
bon, on s'aperçoit qu'il y a quand même des progrès qui sont faits, mais le problème de la gauche, c'est qu'elle voudrait une perfection absolue. Elle voudrait que nous n'ayons que nous ne soyons animés que de bons sentiments. Et ça, c'est impossible. Plus la moralisation progresse, plus l'objectif s'éloigne. Donc finalement, on se retrouve aujourd'hui accusé de péchés, qui sont en fait maintenant des délits, sinon des crimes, qui auparavant étaient des choses qui étaient complètement habituelles dans la nature des hommes. Hein, il y en a qui vont considérer que le mauvais partage des tâches ménagères aujourd'hui dans la famille est un délit. Bon, moi, écoutez, je l'avoue humblement, j'ai tendance à rester le cul sur ma chaise au moment de débarrasser. Ben, c'est comme ça. J'ai honte, Madame Rousseau, pardon. Mon père faisait comme ça, mon grand-père faisait comme ça. Et bon, et je sais pas si mon fils et mes fils auront pas tendance à faire comme ça. Vous parlez d'une affaire. Bon, ben
Oui.
maintenant, on va vous expliquer que c'est criminel. Voilà. Donc, l'horizon n'arrête pas de la perfectibilité, n'arrête pas de s'éloigner. Hein, on n'arrivera jamais à cette perfection dont la gauche rêve pour nous. Hein, voilà.
Non, c'est ce qu'explique très bien d'ailleurs Anatole France quand il dit qu'il faudra encore verser des flots et des flots de sang impur. Il reprend un peu ce que dit notre ma propre Marseillaise.
Et encore, il a écrit ce livre en 1912 et on n'a pas vu 1917 et on n'a pas vu la Chine, et on n'a pas vu Pol Pot. Voilà, donc, et on n'a pas vu, je suis désolé, je le développe un peu dans mon livre, même si j'ai conscience que c'est un peu casse-gueule, j'aimerais qu'on me démontre en quoi le nazisme n'est pas intrinsèquement une idéologie de gauche. Voilà, donc il en reprend en tout cas tout un tas de critères, et j'ai pas le souvenir que Hitler ait décrété « je suis d'extrême droite ». Hein, je pense qu'après sa défaite, et comme ses idées étaient évidemment inexcusables, et comme en plus il était vaincu, contrairement à Staline, on a décrété qu'il pouvait pas, que ses idées pouvaient pas être de gauche. Enfin, j'aimerais quand même qu'on me... Alors on peut dire, oui, il a tué les communistes, mais Staline aussi a tué les anarchistes, les socialistes révolutionnaires, les trotskistes, etc., etc. Staline, il a tué tous les gens qui n'étaient pas
Ah
Staline.
oui.
Hein, voilà. Bon. Donc, bon, enfin, je m'étendrai pas là-dessus, parce que c'est un sujet qui est extrêmement peau de banane.
Non, parce
Hein.
que de toute façon, son parti s'appelait le Parti national-socialiste.
Ben oui, alors, en plus, Parti national-socialiste, l'idée nationale, au départ, c'est une idée de gauche. Hein. La nation est une idée de gauche. C'est une
Oui,
idée qui est apparue sous la...
c'est né lors de la fête de la Fédération.
Voilà, c'est une idée qui est apparue sous la Révolution. D'ailleurs, je rappelle, hein, puisqu'aujourd'hui, être patriote, c'est être d'extrême droite, je rappelle que les révolutionnaires s'appelaient eux-mêmes les patriotes. Hein. Voilà. Donc l'idée de nation, l'idée de patriotisme, c'est une idée de gauche. Bon, ensuite est arrivé le socialisme, autre idée de gauche. Donc on vient vous expliquer que le national-socialisme est une idée d'extrême droite, mais elle n'a rien cette idée d'être une idée de droite ou d'extrême droite, parce que je pense que la frontière entre la droite et la gauche consiste justement entre des gens qui veulent instaurer un monde parfait selon leurs idées, un monde utopique, sans Dieu et sans l'Église. Bon,
Et
ce qui est le
surtout
propre.
un monde jacobin,
Oui,
centralisé.
et en plus centralisé. Et
L'ancien
en plus
régime était
centralisé.
un régime
Là où les
décentralisé.
gens qui ne sont pas de gauche, hein, d'ailleurs, moi, auxquels on va coller une étiquette de droite et donc on va leur coller une étiquette d'extrême droite, sont des gens qui laissent beaucoup plus de place à l'Église, à son rôle, qui reconnaissent ils sont beaucoup plus sceptiques sur la capacité d'instaurer sur cette terre un monde parfait. Donc on va les accuser, bien sûr, la gauche va les accuser, reconnaissant qu'un monde parfait est impossible et que donc il n'est pas possible d'utiliser tous les moyens pour le mettre en œuvre. Bah, du coup, on va considérer que les gens de droite sont des gens qui cautionnent les imperfections du monde, quand finalement ils ne les souhaitent pas avec cynisme. Hein, voilà, donc je pense que, pour en revenir au national-socialisme, il coche, à mon avis, toutes les cases d'une idéologie de gauche, et que c'est simplement, comment dire, du nominalisme, hein, que de lui avoir collé une étiquette d'extrême droite, parce qu'encore une fois, il était indéfendable, et vaincu, hein, là où le stalinisme était indéfendable, mais vainqueur. Donc il a fallu, on ne pouvait pas dire, bon à l'époque, rappelez-vous, à la Libération, hein, le Parti communiste qui était stalinien, hein,
bien
il
sûr,
représentait
bien sûr.
Un tiers de l'électorat français. En 1953, au moment de la mort de Staline, l'humanité a fait sa une
Oui,
tout à fait,
le
tout à fait
maréchal
pathétique.
Staline est
Voilà,
mort.
bon, voilà, exactement. Bon,
La France en
donc
deuil.
dans ce contexte où finalement le stalinisme était tout à fait encensé, on ne pouvait pas faire de parallèle avec avec le nazisme. Je constate également, hein, que le maoïsme se porte encore bien dans le monde intellectuel quand on connaît effectivement le bilan du grand bond en avant, le bilan de la révolution culturelle,
Oh là
etc.,
là,
qui se chiffre en dizaines de millions de morts. Bah, ça fait encore très chic de se dire maoïste. Bah, excusez-moi, mais ça fait intellectuel, ça fait intelligent. Hein, voilà, vous dites maoïste, vous passez pour un type super super intelligent. Là. Le gars qui est quand même capable de voir haut et loin et de passer par-dessus les contingences de quelques dizaines de millions de morts.
Vous écoutez Radio Courtoisie et vous savez que cette radio ne reçoit ni subvention ni publicité payante. Tout repose sur ses auditeurs.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Alors on l'a compris, cher Jean-François Chemin, à travers votre livre, vous brossez, on peut dire, non seulement le portrait d'une idéologie, mais également le portrait de son évolution dans le temps et dans l'espace. Et vous abordez aussi la question des ce qu'on peut appeler les chrétiens de gauche, que vous voyez...
Effectivement.
Alors, on dit souvent que c'est à partir de la Révolution, on a parlé d'un certain nombre de clercs, que, et également avec Lamennais, hein, au XIXe siècle, mais vous considérez davantage ce qui a pu se passer après la Seconde Guerre mondiale et l'essor des mouvements dits démocrates chrétiens.
Oui, alors, déjà, je vais vous livrer une petite anecdote. Voilà, je raconte un peu ma vie, mais enfin, bon, le vécu donne un peu de chair à ce qu'on dit. Moi, ma conscience que j'étais pas de gauche a émergé clairement, très jeune, à l'aumônerie du collège, et au sein du mouvement Scout de France. Hein, donc j'avais 11 ans, je me suis sauvé de l'aumônerie parce que je ne supportais plus ce que j'y entendais. Donc c'était en 72, vous voyez, on était en plein, voilà.
Oh là là.
Et j'ai énormément souffert au Scout de France après le basculement. Voilà. Donc qu'est-ce que j'appelle le chrétien de gauche, hein, il y a effectivement dans notre religion chrétienne, hein, c'est un peu comme les deux axes de la croix du Christ. Il y a un axe vertical qui nous incite à croire en Dieu, à le prier,
à regarder vers le ciel, voilà.
Voilà, regarder vers le ciel. Et puis il y a un axe horizontal qui nous invite à faire le bien autour de nous. Mais l'un ne va pas sans l'autre, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense même que c'est la foi et la prière qui me donnent la force et l'inspiration pour essayer très imparfaitement de faire le bien autour de moi. Voilà. Bon. Alors, sachant que, au cœur de tout ça, il y a quand même le fait que je dois avoir conscience que je ne suis pas meilleur que les autres. Voilà, je suis pécheur autant que les autres. Bon. Qu'est-ce que le chrétien de gauche? C'est d'abord quelqu'un qui va considérer que, d'une part, que l'action charitable, elle est tout à fait nécessaire, prime l'aspect spirituel. Voilà.
C'est
donc c'est un chrétien engagé, c'est un chrétien militant, c'est un chrétien qui est dans les luttes. Hein, voilà, bon. je me souviens, alors, j'avais...
Vous parlez d'horizontalisation.
Voilà, d'horizontalisation. Donc c'est un chrétien qui est à fond, au nom de sa foi chrétienne, ses convictions chrétiennes, engagé pour changer la société, mais qui en retire un sentiment qui est typiquement de gauche, de supériorité morale sur les autres, et c'est un chrétien qui va passer son temps à faire la leçon aux autres, à les condamner, etc., etc. Voilà. Donc, alors on retrouve, vous avez parlé effectivement de la démocratie chrétienne, mais on retrouve ça également très largement dans les mouvements d'action catholique. Hein. Oui. Après la Première Guerre mondiale, le pape Pie XI a lancé un certain nombre de mouvements d'action catholique dont il considérait que, il disait lui-même, c'était la prunelle de ses yeux. Donc il y a quoi ? Il y a des syndicats chrétiens, comme la CFTC, il y a les jeunesses ouvrières chrétiennes, les jeunesses agricoles chrétiennes, les jeunesses étudiantes chrétiennes, qui ont, et puis effectivement aussi des partis de démocratie chrétienne, qui ont joué un rôle tout à fait positif dans les années 30, hein, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont engagés dans la résistance, aux côtés, très souvent, effectivement, du Parti communiste, dès lors que celui-ci est rentré en résistance, c'est-à-dire à partir de juin 1941, puisque n'oublions pas que jusqu'en juin 1941, il faut le redire et le redire, le Parti communiste était pour la collaboration et le bon accueil fait aux Allemands. Donc ces chrétiens de l'action catholique se sont engagés dans la résistance et ça a créé une convergence, une sympathie, une meilleure connaissance réciproque, hein, chantée par Aragon.
Convergence des luttes.
Voilà, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Oui. Sauf qu'après-guerre, eh bien, les chrétiens de gauche sont passés, avec armes et bagages, à gauche. Hein. C'est la CFTC qui est devenue CFDT. C'est la jeunesse ouvrière chrétienne. J'en discutais avec un ancien responsable de la jeunesse ouvrière chrétienne qui m'a dit, dans les années 60, nous sommes passés avec armes et bagages au Parti communiste. Oui. C'est la jeunesse étudiante chrétienne. N'oublions pas que Louis Althusser, le grand philosophe stalinien profanor malsup, a commencé aux jeunesses étudiantes chrétiennes. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de militants de gauche, hein, oui, sont passés par l'Église, enfin, se définissent comme chrétiens. Marine Tondelier, et je respecte beaucoup son propos, mais elle a pris nous explique que c'est à l'aumônerie qu'elle a pris conscience qu'elle était de gauche, parce qu'effectivement, pour elle, le Christ a laissé un message de gauche. Alors oui, effectivement, mais d'ailleurs, il n'y a pas que le Christ. Moi, quand j'entends à la messe ou que je lis le livre d'Isaïe, hein, j'ai l'impression que pris au pied de la lettre et comme programme politique, on croirait entendre Jean-Luc Mélenchon. Hein, voilà. Sauf que tout ça, ce n'est pas un programme politique. Hein. Ce sont des paroles, effectivement, eschatologiques, effectivement, et on peut imaginer qu'à la fin des temps, le loup couchera avec l'agneau et l'enfant avec le lion. Maintenant, je n'irai pas mettre mon enfant dans la cage d'un lion, hein, parce que bon, voilà. Donc, vous avez effectivement des gens qui prennent la morale évangélique, qui décident d'en faire l'application politique ici et maintenant, et qui se placent...
Une théologie de la libération.
Voilà, et qui se place intellectuellement et moralement au-dessus des gens qui, comme moi, considèrent qu'on fait ce qu'on peut, hein, mais que tout n'est pas possible, que tout d'ailleurs n'est pas souhaitable. Hein, voilà, donc effectivement, certes, le Christ
il ne
et
faut
la Bible
pas,
nous incitent à...
Il ne faut pas horizontaliser le message de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament.
En tout cas, il ne faut pas en faire un programme politique.
Non.
Et si on veut, et c'est très bien, s'en inspirer à des fins politiques, il faut le faire avec prudence.
Regardez ce qu'on disait du Magnificat, le venin du Magnificat, hein, qu'il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, etc. Bon, si c'est compris d'une manière spirituelle, et d'une manière, on peut même dire, de combat à la fois intérieur, on est tout à fait dans la vérité du christianisme, mais si on veut en faire un programme politique, on devient des ferments.
Voilà.
Des ferments de dégradation, voilà, de toute la société.
Voilà. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je constate qu'à gauche et à l'extrême gauche, il y a beaucoup de gens qui ont une solide éducation chrétienne, formation chrétienne, habitude chrétienne. Jean-Luc Mélenchon a été enfant de cœur toute sa jeunesse, ne l'oublions pas, et je pense qu'il a beau aujourd'hui dérisionner sur le christianisme. J'entendais l'autre jour qui qui s'amusaient, des personnes qui allaient à la messe à Notre-Dame en disant, voilà, au milieu des touristes, il y a quelques attardés. Bon, voilà. Mais sauf que Jean-Luc Mélenchon est totalement imprégné de christianisme, beaucoup plus qu'il ne l'imagine.
Oui, d'un espèce de messianisme dévoyé.
Voilà.
Alors, vous avez consacré un chapitre au sein de votre livre « Notre ami la gauche », un chapitre qui s'intitule « Mais comment s'en débarrasser ?» Et c'est-à-dire que vous donnez quelques conseils de prophylaxie en même temps que de thérapie par rapport à cet esprit que vous dénoncez.
C'est une question qui mérite d'être posée.
Ah bah oui.
Parce que depuis qu'elle existe, la gauche a des morts sur la conscience, enfin, sauf qu'elle ne les a pas sur la conscience, mais enfin, du moins, elle a du sang sur les mains jusqu'au coude. Et pourtant, elle continue d'en avoir bonne conscience, elle continue de pérorer, elle continue de faire référence à ces grands moments de son histoire avec... Bon, voilà. Donc, je dirais que pour notre simple sécurité, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ma réponse, hélas, c'est assez pessimiste, parce que je pense que cet esprit-là, il est intrinsèque à notre civilisation. Il y a dans l'ADN de notre civilisation le fait qu'il y aura toujours des gens, des intellectuels, des clercs, avec donc un magistère intellectuel et moral, qui se placeront au-dessus des autres pour leur faire la leçon. Et il y a également dans l'ADN de notre civilisation que ces gens s'inspireront de la morale évangélique pour juger, condamner ceux qui ne voient pas les choses comme eux. Hélas, je constate que nombre de grands intellectuels catholiques ont donné des rejetons qui sont des militants d'extrême gauche. Prenons Bernanos, par exemple, le grand écrivain catholique. Son arrière-petit-fils est un militant d'extrême gauche. Voilà. Bon, donc finalement, il y a une pente savonneuse de notre civilisation chrétienne qui conduit à l'esprit de gauche. Hein. Peggy disait tout commence en mystique et finit en politique. Ben, c'est un peu comme ça. Bon.
Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va écouter ce que vous écrivez sur le moyen d'en sortir.
Puisque l'enjeu reste la victoire du bien sur le mal, notre civilisation propose en effet à méditer d'autres figures que celles de l'homme de gauche. La figure du héros, tout d'abord, qui n'hésite pas à mettre sa vie dans la balance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de héros de gauche, mais le héros ne fait pas de discours, ne dispense pas de leçons, ne jouit pas d'un statut a priori, ne demande à personne de lui ressembler. Il donne l'exemple et ne doit son aura a posteriori qu'à son sacrifice. Il ne dit pas aux autres ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent à l'échelle du pays ou du monde. Il le fait lui-même, dans la situation où il se trouve, humblement à son niveau. L'acte n'a pas besoin d'être extraordinaire. Tout le monde ne se trouve pas dans la situation du colonel Arnaud Beltrame. Un professeur qui tient jour après jour, heure après heure, ses classes difficiles est un héros par ce qu'il fait, par ce qu'il est, et non par des discours, les siens, ceux de son syndicat ou du parti pour lequel il vote. Un héros ne se joint pas à la meute qui chasse les insuffisances des autres. Il combat d'abord tout seul les siennes. Et ensuite, la figure du saint. Comme le héros, le saint agit seul et met toute sa vie en jeu, chaque instant de chaque jour, parfois jusqu'au martyr. Il montre l'exemple de la vertu, de la cèse, de la charité et ne se contente pas de discours car sa première caractéristique est l'humilité. Qui est-il pour se croire meilleur que les autres? Bien au contraire, il a une conscience aiguë de son péché et il sait que c'est en luttant contre lui qu'il peut, à son tout petit niveau, contribuer à changer le monde. Une dame de la charité à qui saint Vincent de Paul demandait de prier pour le salut de son âme lui répondit « Mais monsieur Vincent, si vous n'allez pas au ciel, que faut-il donc faire pour y entrer ?» Davantage, madame, davantage. Il croit, le saint, que Dieu fait porter beaucoup de fruits aux humbles vies données, bien au-delà de ce qu'il peut imaginer, car il n'imagine rien, et bien au-delà de ce qu'il attend, car il n'attend rien. il se contente de faire ce qu'il a à faire, d'être ce qu'il a à être. Et Dieu fera le reste, s'il veut.
C'est presque un passage d'auteur mystique, Jean-François Chemin.
Écoutez, vous me flattez. Mais je pense néanmoins que...
C'est très beau. C'est très beau ce que vous décrivez là comme antidote à cet esprit révolutionnaire et ce qu'on peut qualifier d'esprit de gauche. Enfin.
Et je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre antidote que ces deux qualités, l'héroïsme et la sainteté, qui convergent dans le personnage du chevalier. Hein, voilà. Mais c'est vrai que toute tentative de mettre un terme à la violence de gauche, à la menace de gauche, d'une part dans l'histoire est éphémère, et d'autre part elle est contre-productive. Parce que Tertullien disait à propos des chrétiens, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Je crois hélas que le sang des martyrs, de leurs martyrs, est également semence de gens de gauche, hein, puisqu'ils passent leur temps à révérer leur mort tout en ignorant dont ils sont responsables. Donc je pense effectivement que le discours ne sert à rien, puisque de toute façon ils sont imperméables à toute forme d'argumentation, que la violence, même si c'est parfois une tentation, ne serait-ce que pour se défendre, est contre-productive, et qu'il ne me semble objectivement pas y avoir d'autre réponse que l'héroïsme et la sainteté.
On va lire d'ailleurs encore un très beau passage de votre conclusion.
Un intellectuel et apparatchik de gauche, c'est presque un pléonasme, a naguère écrit que la Révolution française n'était pas terminée. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Sauf que pour lui, elle ne le sera que quand les gens comme lui auront enfin acquis le monopole de l'accès à nos consciences. Il rêvait d'arracher les élèves à tous les déterminismes autres que ceux de l'éducation nationale dont il était alors ministre. Pour moi, quand nous aurons enfin pu nous libérer d'une telle effarante prétention. Le seul antidote à ce fanatisme est la réponse que Balzac prête dans L'envers de l'histoire contemporaine à Madame de La Chanterie quand elle apprend que le vieillard à qui elle vient de faire la charité n'est autre que le juge révolutionnaire qui a jadis envoyé sa fille à l'échafaud. Par Louis XVI et Marie-Antoinette que je vois sur l'échafaud, par Madame Élisabeth, par ma fille, par la vôtre, par Jésus, je vous pardonne. En entendant ces mots, conclut Balzac, l'ancien procureur leva les yeux au ciel et dit « Les anges se vengent ainsi. » Nous ne sommes certes pas, nous qui ne sommes pas de gauche, tous des anges, mais nous le savons bien et ne nous prenons pas, nous, pour tels. Vous rêvez, gens de gauche, de vous débarrasser définitivement de nous, comme les curés du péché ou les médecins de la maladie. Nous n'avons pas à votre égard cette prétention, nous contentant de rêver que vous soyez un jour juste un peu moins dupe de vous-même. Puisse ce petit essai y contribuer.
Oui, ne plus être dupe de soi-même et de vouloir prétendre guérir tout le monde. C'est la leçon de l'humilité, au fond. De se reconnaître créature. Je crois que notre ami Jean-François n'est plus en communication. Oui, non. Eh bien, de toute façon, on va rappeler, donc, Véronique.
Vous m'entendez à nouveau. La liaison.
Vous êtes voilà.
Oui, ça y est, il y a eu un blanc, je suis
exactement,
désolé.
Exactement, exactement. Donc, je disais que la clé était finalement celle de l'humilité.
Voilà, la clé est celle de l'humilité.
Ne pas être dupe de soi-même.
Elle est celle également de l'espérance, puisque effectivement l'épreuve à laquelle nous soumet la gauche est celle du désespoir face à son omniprésence, au sentiment de toute puissance, de sa toute puissance qu'on a en face d'elle, puisque effectivement c'est la pente savonneuse de notre civilisation, et on a l'impression que on n'en aura jamais fini avec son projet totalitaire. Voilà. Bon. Et,
en tout cas, vous avez trouvé. Je ne me souvenais pas d'avoir lu ce si beau passage de Balzac que vous citez à la fin de votre livre.
Effectivement, ce livre n'est pas le plus connu. Ce roman n'est pas le plus connu à l'envers de l'histoire contemporaine, mais. C'est une histoire véridique, en fait, qui parle d'une, société secrète à l'époque de la Restauration, qui s'appelle les Chevaliers de la Foi. Est-ce que j'ai 2 minutes pour développer quelque chose ?
2 minutes, oui.
Ou est-ce qu'on est en fin d'émission ?
Non,
Deux minutes. Oui, une grande leçon d'espérance. Bon, vous savez que je suis lyonnais. Et que Balzac fait référence à une société qui a existé à Paris, mais qui a surtout existé à Lyon, qui s'appelait la Congrégation des Messieurs de Lyon. Et c'est une société qui a existé, qui est née en 1802, à l'initiative de catholiques monarchistes lyonnais, qui a duré jusque dans les années 1970, totalement sous les radars. C'était donc une société secrète, qui comportait environ 200 personnes qui se cooptaient les unes les autres, et qui se donnait comme mission de faire le bien et de faire avancer leur cause, mais encore une fois de manière totalement invisible. Et il faut savoir que le frère de Pauline Jaricot, par exemple, en faisait partie, que Frédéric Ozanam en faisait partie, que les fondateurs de l'Université catholique de Lyon en faisaient partie, que les gens qui ont financé la construction de Fourvière, etc., etc., etc. Donc, face à la gauche, je crois que le combat politique, il est utile, on va avoir des élections politiques, mais je le mets vraiment en second plan par rapport à une action souterraine, discrète, concrète.
Oui.
Voilà.
Et une c'est action exactement tout à la fois spirituelle et intellectuelle.
Exactement. Et spirituelle également. C'est exactement ce que l'écrivain américain d'origine hongroise, Rod Dreher, démontre dans 2 livres, Le Paris bénédictin et Résister aux mensonges. Il montre comment la société chrétienne s'est constituée au XIe siècle à partir de l'abbaye de Cluny, une petite abbaye qui est née au fin fond de la Bourgogne, voilà. Et il montre effectivement aussi comment le communisme s'est effondré dans les pays de l'Est, et notamment en Hongrie, son pays, de la manière que je viens de décrire. Voilà. Donc je pense que la grande leçon que je voudrais laisser, c'est que face à ce désespoir qui nous prend face à ce qui est une apparence de toute puissance de la gauche, il faut rester dans l'espérance, qui est une vertu chrétienne, hein, et comme disait Bernanos, l'espérance est un désespoir surmonté, et agir là où on est.
Et il faut savoir identifier, on peut dire, les conservatoires spirituels, les endroits de ressourcement spirituel que peuvent constituer d'ailleurs les monastères qui sont à l'origine de l'Occident chrétien.
Tout à fait. Hein. Et effectivement, faire ce qu'on a à faire, héroïquement, saintement, humblement, à son niveau, en se fichant complètement de ce que ces gens pourront en dire. Hein, voilà. Laissons le chien aboyer et soyons la caravane qui passe.
Alors, cher Jean-François Chemin, nous arrivons au terme de cette émission et Véronique va nous rappeler votre livre, le livre dont il était question aujourd'hui.
Qui est intitulé « Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature ». Et vous avez eu une préface de Mathieu Boccoté également.
Donc, longue et belle préface d'ailleurs, Jean-François. Et on peut dire que votre livre est un peu le pendant d'un autre livre qui était paru chez Arthège en 2023, à savoir « Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde ».
Tout à fait. Un livre qui a eu le prix des associations familiales catholiques. Et je pense également à un autre livre auquel il fait suite, qui est « La France n'est pas seulement la République
»,
que j'ai fait paraître, je crois, en 2021 ou 2022.
Oui, toujours 2021 chez Arthège, oui.
Voilà, donc voilà, je poursuis un peu le fil directeur de ma réflexion. Et comme je le disais en début d'émission, vous le savez, puisque c'est chez vous que je vais le sortir, je réfléchis actuellement. Et parce que je pense que c'est aussi un sujet d'actualité, tant les symptômes se ressemblent à l'effondrement de la République romaine. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-François Chemin.
Merci à vous deux.
Et ma foi, eh bien, écoutez, je pense que les auditeurs sauront avoir cet excellent livre de vacances.
Voilà.
Vous venez d'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, assisté de Véronique, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 8 juillet 2026, de 10h à 11h, et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Et si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.